Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag, le libre cours de Radio Courtoisie. Aujourd'hui, nous recevons Eurydice Dong, déléguée Reconquête Vendée. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation, Eurydice.
Vraiment, merci de me donner l'opportunité de pouvoir répondre à vos questions. Ça me fait plaisir.
Plaisir partagé. Pouvez-vous nous rappeler, Eurydice, votre parcours personnel? Alors, née en France, je le rappelle, d'origine gabonaise, mère de 5 enfants et mariée à un gendarme. Comment ces éléments ont-ils influencé votre engagement politique?
Alors, il est toujours très compliqué de pouvoir parler de soi. J'ai pas grand-chose vraiment à dire sur mon parcours personnel parce que c'est un peu personnel justement.
Bien sûr.
Mais je voulais revenir juste sur le fait que je n'ai jamais été mariée au père de mes enfants.
D'accord.
J'ai bien vécu avec un gendarme qui est le père de mes enfants, mais nous sommes séparés. Et je tenais à faire la lumière là-dessus parce que je suis tellement insultée sur les réseaux sociaux concernant ce mariage qui n'existe pas, mais que par contre, je suis bel et bien en couple avec un homme d'affaires entrepreneur de Vendée. Et donc, tout se passe bien dans ce sens-là. Et voilà, je voulais un peu éclaircir les faits sur ça. Voilà.
D'accord.
Et en tant que… Alors, mon parcours, c'est vraiment le parcours d'une femme courageuse, une femme forte, une femme dynamique, hein, qui est maman de 5 enfants. Et à travers mon parcours, je rends hommage à mon papa, qui était un très, très grand journaliste gabonais, qui a donné sa vie au Gabon. Et qui m'a permis, à travers son parcours, de vouloir faire la même chose pour le pays dans lequel je suis née,
D'accord.
c'est-à-dire la France. Voilà. Donc, je tiens tout ça de mon père et je continue dans l'héritage qu'il m'a donné. Il m'a fait comprendre qu'il m'a fait naître en France pour une raison précise et qu'il fallait que j'en fasse bon usage. Et je pense que c'est ce que je fais aujourd'hui pour mon père, pour feu mon père qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Et c'est très important pour moi de continuer son héritage comme je le fais aujourd'hui. Voilà.
Et pourquoi vous avez évoqué des attaques Alors, je sais que les gens n'ont que ça à faire et on en reparlera. Mais quant à cette rumeur, le fait que vous ayez été avec un gendarme, quid, qu'est-ce qui s'est… Pourquoi, en
Mais
fait
en fait, pour eux, femmes de gendarmes… Pour eux, la police, les forces de l'ordre tuent. Donc,
Ah oui, c'est dans le
du
sens.
coup, voilà,
D'accord.
c'est dans ce sens-là que je reçois des attaques, des menaces, hein, dans ce sens-là. De toute façon, je ne renie pas le père
Ah,
de mes
bien
enfants.
sûr.
Au contraire, c'est une fierté, hein. C'est une fierté et ça fait aussi partie de pourquoi j'ai voulu m'engager en politique parce que j'ai été témoin de certaines choses en vivant justement à la gendarmerie, qui m'ont vraiment écœurée, qui m'ont vraiment interpellée. Et le parcours de mon ex-conjoint fait partie des raisons pour lesquelles j'ai voulu me lancer en politique pour dénoncer le traitement réservé aux gendarmes qui, au quotidien, sont là pour nous et qui donnent aussi leur vie pour nous
Tout à
et
fait.
qui ne sont pas que des gendarmes, qui sont également des papas. Et je pense à mes enfants, je pense à tout ce qu'on veut leur léguer. Et ça fait partie des valeurs que je veux vraiment défendre.
Eh bien, effectivement, ça nous permet de lancer, en tout cas, une sorte de dédicace aux forces de l'ordre.
Exactement, je suis pour les forces de l'ordre et je les soutiens vraiment, voilà, d'une force, voilà, vive les forces de l'ordre.
Eurydice, donc, vous avez rejoint Reconquête en septembre 2024, après avoir milité au RN. Qu'est-ce qui vous a motivé à changer de parti et quel est votre rôle précis en tant que délégué départemental en Vendée depuis mars 2025, n'est-ce pas?
Voilà, depuis mars 2025. Alors, de toute façon, je me suis toujours dit que je n'allais jamais renier ma première famille politique qui a été le RN. J'ai fait mes débuts dans ce parti. Et je ne ferai jamais comme certains qui ont quitté et qui vont après cracher sur la soupe en voulant dire des choses qui n'ont pas lieu d'être. Je suis partie de toute façon pour continuer de défendre mes valeurs différemment au sein de Reconquête. Et je ne tiens absolument pas à mettre en mal le RN en quoi que ce soit. C'est une décision personnelle. Voilà, je voulais continuer différemment avec vraiment un parti qui pour moi aujourd'hui est le seul qui représente la vraie France, la France qui ne veut pas mourir, la France qui se défend de ses valeurs et qui les assume totalement et entièrement. Et je me retrouvais dorénavant plus chez Zemmour et Sarah que de continuer un combat qui me paraissait moins plus puissant au RN que dorénavant que je vis avec Reconquête. Voilà.
Aurélie, juste une petite pause, un petit message pour les auditeurs de Radio Courtoisie.
Oui.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs de Radio Courtoisie, surtout n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 Boulevard Murat, 75016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous. Eurydice, donc, avec les élections municipales prévues les 15 et 22 mars 2026, comment Reconquête se positionne-t-il en Vendée? Et avez-vous des candidats locaux ou des priorités pour contrer le désarroi politique des Français?
Alors, on va pas se cacher les choses. Hein. Actuellement, en Vendée, notre parti est confronté à ses premières élections municipales. Hein. On va pas se le cacher. Donc, du coup, nous ne sommes donc pas un parti de barons locaux, de notables. Qui ne songent qu'à maintenir leur place. Hein. Nous, vraiment, notre parti en Vendée, on va dire que c'est encore un peu compliqué. Mais qu'à cela ne tienne, le constat est quand même là, que Reconquête gagne de plus en plus le combat des idées. Reconquête gagne de plus en plus concrètement dans les idées. Nous sommes présents et nous avançons. Nous avançons sûrement pour être mieux présents les prochaines élections municipales. En tout cas, pour la Vendée, c'est ce qu'il en sort aujourd'hui. Voilà.
Et vous évoquiez donc tout à l'heure Sarah Knafo, je le rappelle, qui se présente donc à Paris et aussi Paris 16e.
Tout à fait, oui.
Dans vos publications récentes, Eurydice, vous avez réagi au débat sur l'islam en France, hein, comme celui impliquant l'imam de Bordeaux, Tarek Oubrou. Selon vous, l'islam est-il compatible avec les valeurs républicaines et quelles mesures préconisez-vous pour préserver l'identité française?
Alors, important. Franchement, oui. Alors, est-ce que l'islam est compatible avec la République française? Pour moi, la réponse, c'est clair que c'est non. Parce que à moi toute seule, je représente vraiment l'exact contraire du fait que je ne peux pas aller vivre dans un pays qui prône l'islam, parce que les femmes ne sont pas libres. Et en France, je peux être une femme libre, sauf pour certains partis qui veulent dorénavant islamiser la France. Mais moi, en tant que femme, je sais que dans mon pays, la France que je défends, la France que nous voulons préserver, c'est une France où les femmes sont libres, où les femmes ne sont pas contraintes à ne pas respecter le fait que ce sont des belles femmes et qu'on a le droit d'être libre, d'être des femmes tout simplement libres. Et donc, l'islam ne peut pas être compatible avec la République, ne serait-ce que parce que moi, en tant que femme, je sais très bien que je ne pourrais jamais vivre en paix dans un pays qui prône l'islam, tout comme les homosexuels aujourd'hui, que je vois certains qui sont dans des partis d'extrême gauche. Qui sont pour le Hamas, ne se rendent pas compte qu'au Hamas, ils n'auraient même pas le temps de pouvoir lever le drapeau, qui seront déjà...
Oui, ça serait compliqué,
jetés.
Effectivement.
Voilà, ce serait très, très compliqué. Donc, pour moi, la France nous permet cette liberté d'être qui nous voulons être. Et rien que pour ça, je peux déjà, juste sur ce fait-là, dire pourquoi l'islam n'est pas compatible avec la République française. Rien que pour ça. Voilà.
Et donc... Quelles mesures préconisez-vous pour préserver l'identité française?
C'est-à-dire pour moi, tout simplement, c'est déjà que les Français aujourd'hui apprennent à reprendre la fierté de l'identité française. Ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que ça, accepter il est important pour nous d'être fiers de qui on est. Et aussi, de dire tout simplement les choses. En France, il n'y a pas « venez comme vous êtes ». C'est « venez comme nous sommes, nous, ici, en France ». La France, elle est chrétienne. La France, elle est chrétienne et on n'a pas à en avoir peur, on n'a pas à en avoir honte, on n'a pas à se cacher, on n'a pas à vouloir arranger notre façon de vivre pour plaire à d'autres. C'est ceux qui viennent d'ailleurs qui doivent, eux, se plier à nos us et coutumes. Et c'est ça qui me dépasse, c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi c'est nous qui sommes chez nous qui devons nous plier à ceux qui viennent d'ailleurs? Pourquoi ceux qui viennent d'ailleurs n'acceptent pas ce que nous sommes ici? Si nous ne pouvons plus être qui nous sommes dans notre propre pays, où allons-nous aller du coup? Qui va nous défendre? Qui va défendre notre culture, notre identité? Donc pour moi, les mesures sont simples. Il faut imposer déjà, il faut redonner à la France et surtout à la jeunesse l'envie d'aimer la France, l'envie d'aimer d'être français, de nous redonner les valeurs, de redonner confiance et d'accepter notre héritage et de commencer même tout petit à devoir transmettre cela à nos enfants. Voilà, pour moi, c'est essentiel qu'on revienne aussi à la chrétienté. Moi, je suis baptisée, je suis catholique et c'est très important pour moi de vivre dans ma croyance sans imposer, évidemment, parce que moi, je n'ai jamais vu des chrétiens boucher des rues entières pour prier dans les rues, comme font certaines personnes que je constate dans certains lieux. Nous, on prie à l'église, mais je constate qu'une certaine religion, elle a le droit de bloquer les rues, de faire des prières de rue, même place de la République. Eh ben, toutes ces choses-là ne devraient pas exister si les Français étaient vraiment fiers de qui nous sommes. Voilà, pour moi, déjà, la première base, c'est de redonner confiance et la fierté aux Français. Déjà pour ça.
Et je voulais avoir un peu votre réaction par rapport aux événements récents là qui se sont passés. J'en donne deux par exemple, les citoyens patriotes qui ont failli se recevoir une chaise dans la figure. Je pense que vous voyez Magelia et son équipe. Et malheureusement, ce jeune homme Quentin qui voilà.
Est-ce que je ne sais pas si je peux être vraiment sincère comme je le suis sur mes réseaux sociaux.
J'espère.
Je veux dire, ne pas broder les mots, parce que pour moi, allez-y. Aujourd'hui, on nous a toujours fait croire, la France insoumise nous a toujours fait croire, avec l'extrême gauche, que c'est la droite, entre guillemets l'extrême droite, que je refute, que nous ne sommes pas l'extrême droite. Mais les propos des accusations que nous vivons, nous sommes persécutés, que nous sommes l'extrême droite. Mais on nous fait croire que c'est l'extrême droite qui est un danger pour la France. On nous fait croire que c'est la police on nous fait croire que c'est la police qui tue. Je veux pour preuve les propos d'Assa Traoré, que j'en peux plus, qui se victimise depuis déjà je ne sais plus combien de temps sur la mort de son frère en accusant systématiquement la police. On nous fait croire que c'est la police le problème. On nous fait croire que c'est l'extrême droite le problème. Or, aujourd'hui, nous constatons que le vrai problème de la France, ce n'est pas la police qui tue, c'est bien l'extrême gauche aujourd'hui qui pousse par leurs propos à ce qu'on arrive à en avoir des Quentins qui sont véritablement la France que nous voulons défendre, que nous sommes en train de perdre face à tant de haine.
Peut-on dire les pseudo-antifa?
Exactement, voilà. Donc, moi, je suis horrifiée en tant que maman. J'ai un fils qui a l'âge de Quentin et mes enfants sont des Français qui aiment la France. Et j'ai peur pour eux en me disant, on ne peut plus être français et aimer notre pays et vouloir défendre nos valeurs, les vraies valeurs. Nous sommes en danger pour ça. Nous sommes en danger parce qu'on aime notre pays. Et perdre Quentin, qui représente la vraie France, parce qu'elle doit se faire remplacer par l'extrême gauche qui prône une France de médiocrité, une France qu'on ne veut pas, ben moi j'ai peur. Donc aujourd'hui, je n'ai pas peur de la police, j'ai peur de la France insoumise, j'ai peur de Raphaël Arnaud. J'ai peur de Rima Hassan, voilà des personnes comme ça. J'ai peur de Jean-Luc Mélenchon et je n'ai pas peur de la police. Voilà, j'ai peur de tous ces gens qui prônent la haine de la police, la haine des Français. Voilà, c'est de eux qu'aujourd'hui j'ai peur. Et en tant que maman, je suis tellement attristée de la mort de Quentin. Mais ça doit être justement un éveil de conscience, la mort de Quentin, parce qu'il n'y a pas eu que Quentin. Il y a eu aussi le gendarme Comines. Tout ça, c'est la lâcheté. Tout ça, c'est le laxisme qu'il y a en France. Nous avons eu Lola, nous avons eu Clément, Thomas. On continue de perdre une France.
On est chez les fous, oui.
Voilà. Moi, je le dis, on est dans un pays que j'appelle le pays de l'absurdistan. Voilà. Voilà. Et on est en absurdistan ici. Ce sont les victimes. Ce sont les victimes qui sont abandonnées. Et les bourreaux ont la parole. Raphaël Arnaud a la parole. C'est pas faute de ne pas comprendre pourquoi un fichier S est député, c'est-à-dire c'est on marche sur la tête en France. Il y a plein d'aberrations comme ça avec lesquelles on est obligé de composer.
Mystère, ouais.
C'est un grand mystère. Moi, je me dis, il y a certains métiers, pour être gendarme ou pour être dans la santé, on doit monter patte blanche. Mm-hmm. On doit monter patte blanche pour faire certains métiers. Et je ne comprends pas pourquoi, pour représenter la France, comment a fait Raphaël Arnaud pour être élu. Je ne comprends pas qu'on nous explique. Donc, c'est un mystère total. Et tant qu'il y aura toute cette cacophonie en France, eh ben, si vous ne voulez pas continuer de perdre des enfants comme Quentin, comme Lola, comme Thomas, et perdre aussi des gendarmes comme le gendarme Comines et tout, eh ben, il va falloir voter meilleur, voter bien pour la France que nous voulons en 2027. Voilà.
Eurydice, vous avez commenté avec ironie les menaces du Niger contre la France, hein, en soulignant l'invocation d'Allah. Étant d'origine africaine, comment analysez-vous les tensions actuelles entre la France et certains pays d'Afrique et quelle devrait être la politique étrangère de la France ?
Alors, avec ironie, parce que en fait, je me rends compte que les soldats, ou je ne sais pas comment dire, les guerriers, là, je ne sais pas comment dire ça autrement, sont des oseaux qui se pavanent, qui pensent qu'ils peuvent déclarer la guerre à la France. En fait, on en a marre. En fait, on en a marre de tous ces ingrats là qui n'arrêtent pas de vouloir pointer la France du doigt. En attendant, je ne sais pas véritablement ce qu'ils auraient fait sans la France. Il est temps que la France coupe le cordon de toute façon avec tous ces oseaux là qui doivent assumer enfin leur position, et on verra bien si après la France tout ira bien. Et de toute façon, avec ou sans la France, ils sont incapables, je suis désolée de vous le dire, ils sont incapables de se prendre en main, ils sont incapables de se prendre en charge. Moi, je veux pour preuve mon pays, le Gabon, qui n'a jamais été en guerre. Eh ben, moi, mon père nous disait à l'époque que depuis que la colonisation est terminée, ben, rien ne va, rien ne va. La colonisation n'a pas forcément été négatif. Il y en a qui en gardent un souvenir positif parce que pour eux, c'était encore une époque où tout fonctionnait. Quand les Blancs étaient là, tout fonctionnait correctement. Et aujourd'hui, depuis la fin de cela, eh ben, fort est de constater que la France n'est pour rien pour le fait qu'il y a des endroits où il n'y a pas la lumière, pourquoi il n'y a pas d'eau, pourquoi il y a toujours le sous-développement. Eh ben non, la France ne peut pas être responsable de tous les maux. Et je demande aussi aux Africains qu'il est temps qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'on fasse en gros un 50-50. Voilà pour moi la vision que j'ai aujourd'hui. Il faut que les Africains se prennent en main et qu'ils arrêtent de se cacher derrière une victimisation que la France nous a, que la France elle est méchante, la France. Eh ben la France elle a bon dos. Hein. Il est temps que, en fait, ça les permet, pendant qu'ils accusent la France, ça les permet de eux-mêmes de ne pas se prendre en main, de ne pas voir aussi qu'ils ont réellement des problèmes. Mm-hmm. Voilà, ça c'est ma vision. Donc, c'est pour ça que je rigolais en me disant encore un autre qui va venir faire son cirque. Et puis on verra bien comment il pense attaquer la France. Hein. Mais bon, ça n'ira nulle part, tout ça. En gros, c'était avec ironie. C'était pour cela.
Bah, le message est très clair. Vous affirmez souvent que votre identité noire est une émancipation et non une victimisation. Hein. En refusant donc la rancœur héritée du passé, face aux accusations de racisme ou de être française de papier, comment répondez-vous à ceux qui vous reprochent d'être dans un parti comme Reconquête ?
Alors, je vais prendre un peu le temps de parler de ça. Pourquoi ?
Je vous en prie, il nous reste 7 minutes, donc allez-y.
Voilà, parce que être une femme de droite noire aujourd'hui, c'est la mort sociale. C'est la mort sociale, c'est la mort au sein de la famille, c'est la mort professionnelle, c'est la mort au niveau sentimental. Pourquoi ? Parce que, en gros, on perd tout. On uh-huh. perd tout parce que s'exposer, Reconquête, c'est le diable. Je suis noire, ma couleur de peau, je suis censée être un slogan de la gauche obligatoirement. Eh ben, hélas, non, je ne suis pas un slogan obligatoire parce que j'ai la couleur de peau. Noir, j'ai encore la capacité de réfléchir par moi-même.
Grosse caricature, tout ça. Je ne parle pas de vous, je parle des personnes qui affirment tout cela. Oui,
qui ne veulent pas me laisser la liberté de penser par moi-même, qui ne veulent pas, ils pensent que je leur appartiens parce que je suis noire et que je n'ai pas à aller, soi-disant, dans un parti qui prend le racisme. Non, Zemmour ne prend pas le racisme. Moi, j'ai rejoint un parti qui n'est pas là pour des histoires d'ethnie. J'ai rejoint un parti qui parle de la France. Mmh. Et en tant que Française, j'ai rejoint un parti qui parle de mon pays, qui parle de là où je vis, de là où grandissent mes enfants. Les gens ne comprennent pas que je ne suis pas à Reconquête pour des histoires de couleur de peau. Non, je suis à Reconquête parce que tout simplement, je suis Française et que je veux garder la grandeur de mon pays. Ça, ce n'est que ça, en fait. Donc, je n'ai même pas à répondre à tous ces incultes qui m'assignent à ma couleur de peau, qui pensent que je leur dois tout parce que je suis noire, que je suis une vendue, je suis une traîtresse, je suis une boutique, je reçois des menaces de mort, je reçois je sais pas comment dire ça. On m'annonce qu'on va me violer, qu'on va me retrouver, qu'on va me faire du mal.
Ah oui, d'accord, ça va très loin, là.
Ça va très, très loin. Mais en fait, plus ils le font, plus ça renforce ma détermination à vouloir être une femme libre. Parce que j'estime aujourd'hui que tous les gens qui parlent de racisme, qui parlent de mes ancêtres quand ils m'envoient des messages, moi, je me dis, justement, si ces Noirs d'aujourd'hui qui m'envoient des messages de menaces avaient vécu ne serait-ce qu'une seule minute de l'esclavage, comme ils le pensent, ils n'auraient même pas tenu une seconde. Parce qu'ils disent qu'ils subissent le racisme en France. J'aimerais bien savoir de quel racisme ils parlent. Moi, aujourd'hui, en tant que Française, si la gendarmerie m'arrête, je ne vais pas me dire c'est parce que je suis noire que je me fais arrêter. C'est parce que je suis Française et que je vis sur un territoire où si la gendarmerie m'arrête, eh ben, je m'arrête, tout simplement. Mm-hmm. J'ai 5 enfants. Mes enfants n'ont pas peur de la police. Pourquoi? Je n'ai jamais transféré de la haine de la France ou la haine des forces de l'ordre à mes enfants. Mes enfants sont en France depuis. Ils n'ont jamais vécu aucun racisme parce que tout est dans ce que nous voulons transmettre. Je n'ai pas transmis mes enfants la haine de la France. Donc, du coup, je ne comprends pas de quel racisme ils parlent. Au contraire, moi, je me dis, nos ancêtres qui ont vécu l'esclavage et aboli, parce que la France a aboli l'esclavage, mais je me dis justement, ils se sont battus pour nous donner cette liberté aujourd'hui de vivre ensemble. Il y a des Noirs qui sont morts parce qu'ils voulaient aimer des Blancs. Il y a des Noirs qui sont morts parce qu'ils voulaient monter dans le même bus que des Blancs autrefois. Ils se sont battus pour tous ces droits-là. Et aujourd'hui, on a ces droits-là. Et bien, on nous dit non. On n'a pas le droit de vivre par rapport au combat qu'ils ont mené. Ils ont voulu qu'on soit libre. Et moi, je me dis aujourd'hui, je suis une femme libre, justement, d'aimer qui je veux, de représenter ce que je veux et ce que je suis aujourd'hui. Je suis née en France et je ne peux pas aimer un autre pays que le seul pays dans lequel je suis née. Voilà. Si je veux être gabonaise et prôner le Gabon, je prends mes kicks et mes claques, je vais au Gabon et je prends le drapeau gabonais. Mais c'est aberrant d'être en France et de vouloir lever le drapeau gabonais pour être fier du Gabon en étant en France. C'est trop facile. C'est trop facile. Donc, tous ces gens-là qui me donnent des leçons depuis la France, je leur invite eux déjà à repartir dans leur pays d'origine si ce pays est mieux que la France. Moi, je reconnais aujourd'hui que la France est mieux pour moi. Donc, j'y reste. Et je suis fière d'être française et je prends le drapeau français matin, midi et soir. Il y en a même chez moi à la maison. Voilà à peu près ce que je voulais dire sur français de papier. Ben non, je ne suis pas française de papier. Quand on est en France, on n'est pas française de papier. Hein, voilà.
Eh bien, écoutez, ça a le mérite d'être clair et voilà. Le message est passé.
Voilà en gros ma position. Voilà.
Et Eurydice, à un an de la présidentielle de 2027, avec des candidatures comme celle récente de Bruno Retailleau, quel rôle voyez-vous pour Éric Zemmour et Reconquête dans le paysage de la droite? Il nous reste 2 minutes.
Hein. D'accord. Alors, pour moi, de toute façon, Reconquête, à travers Zemmour et à travers Sarah, ont déjà contraint le gouvernement à prendre des décisions qui sont dans notre programme. Je pense que Zemmour et Sarah ont permis de mettre la lumière sur des tas de sujets où on sait aujourd'hui que l'actualité donne raison à Zemmour. Donc, Zemmour sera de toute façon le candidat avec lequel il faudra compter en 2027 parce que ses constats ont déjà fait la preuve qu'il dit toujours la vérité. Et quand je constate aujourd'hui que Retailleau, qui n'est qu'un suiveur, qui n'a qui n'est pas de toute façon un leader, rien qu'un truc simple, il a lancé sa campagne avec des couleurs jaunes, qui sont les couleurs de Sarah, ça m'a bien fait rire, voilà, et que même, c'est anodin, c'est des détails, mais rien qu'avec le seul tweet de Sarah qui évoque la cravate jaune de Retailleau, elle a fait plus de vues que Retailleau pour vraiment. En fait, c'est des détails, mais c'est vraiment la preuve que les gens comme Retailleau, bah, ils sont déjà off course, quoi. Il y a rien à regarder de ce côté-là. Mais par contre, il y a beaucoup à regarder du côté de Zemmour, qui est un homme de vérité et qui, lui, fera ce qu'il dit. Voilà.
Et si vous pouvez, en 30 secondes, quel est votre vœu pour la France en cette année 2026, marquée par des défis énergétiques et sécuritaires?
Eh bien, vite fait, défi sécuritaire, comme c'est le défi qui me voilà. C'est vraiment vraiment appliquer déjà, par exemple, les OQTF. Il est essentiel que la France regagne sa grandeur, que la redistribution sociale reste uniquement aux Français, et qu'on ait vraiment un président comme Zemmour, un président de vision, pas un politicard, pas un politicien, mais vraiment un président de vision qui redonnera à la France sa grandeur et tout le respect qu'elle mérite.
Bien écoutez, Eurydice, donc ce sera le mot de la fin. Hein. Je rappelle que vous êtes, c'est passé très vite, hein, délégué Reconquête Vendée. Hein.
Donc, exactement, et j'en suis fière.
Écoutez, on l'a bien compris. Encore merci d'avoir accepté mon invitation et puis j'espère à très bientôt.
Moi aussi, j'espère à très bientôt sur vos plateaux et je serai ravie de venir vous rejoindre. Merci beaucoup
écoutez,
à vous.
Quand vous voulez. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat 75016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous. À mercredi prochain et bonne semaine.